Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et il est cette semaine question du compositeur Anton Reicha. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour Catherine Buzer.
Bonjour Jean-Luc.
C'est le moment que j'attendais tant, Catherine Buzer. Parce que nous en savons beaucoup, mon auditeur et moi désormais, sur celui qu'on appelait encore étourdiment lundi Anton Reicha. On a compris pourquoi il faut désormais l'appeler Anton Reicha. C'est Ivan Illich, votre invité, qui nous l'a dit en début de semaine.
Et oui, et aujourd'hui, Ivan Illich va mettre les mains sur le piano une fois encore pour explorer ce fameux recueil de fugues opus 36 de Reicha.
C'est ça, c'est le moment que j'attendais tant parce qu'il y aura le piano entre Ivan Illich, qui est là, Ivan, et nous. Et puis il y aura cette œuvre de Reicha qui n'est à nul autre comparable, qui va très loin dans certains sens. Et donc je me réjouis de le découvrir. On va commencer en musique, par le début, par la fugue numéro 1. La première fugue d'un recueil qui compte 36 fugues d'Anton Reicha. Sous vos doigts, Ivan Illich, merci de jouer tout spécialement pour nous cette pièce aujourd'hui. Cet opus 36 d'Anton Reicha, c'est par lui que vous avez découvert la musique de ce compositeur. C'était dans quelles circonstances?
C'est-à-dire que comme certaines pièces qui sont plus connues qu'elles sont jouées, les fugues de Reicha en font partie. Puisque ce sont des pièces qui sont connues des musicologues, elles ont une certaine réputation. notamment sur l'approche radicale, le traitement de la fugue, de la forme en tant que telle. Mais c'est très difficile de les trouver, c'est-à-dire qu'il y a quelques enregistrements rarissimes des fugues, et pour le reste de l'œuvre de piano de Reika, il n'y en a pas du tout même. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment chercher longtemps. Il n'y a aucune version sur YouTube, par exemple. Il y a quelques rares versions qui étaient enregistrées en République tchèque dans les années 90. Il y a un Allemand, Tini Wirtz, à Cologne, qui les a enregistrées. Les 36 fugues, c'est le seul de les avoir fait, mais comme c'était plus un professeur et pédagogue qu'un concertiste, on imagine bien ce que ça pourrait donner plutôt qu'une version sublime qui ne nous donne pas envie de les jouer puisque ça nous dégoûte tellement des idées qu'on ne va pas arriver à la hauteur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette musique, mais on découvre encore. Et surtout, les pianistes, que ce soit des étudiants ou les professeurs, ignorent totalement ces fugues, puisque, évidemment, quand on pense à jouer des fugues, c'est plutôt vers Bach qu'on va se tourner naturellement, vers les compositeurs baroques. Et c'est vrai que la tradition de la fugue s'est perdue un peu à la fin du XVIIIe siècle, en début du XIXe. Évidemment, il y a Mozart qui, exceptionnellement, dans certaines pièces, a créé quelques fugues. Beethoven, à la fin de sa vie, donc la Beethoven tardive, dans les années 1820, mais là, c'est bien avant, c'est dans les années 1800. D'ailleurs, ça fait partie de la difficulté avec ces pièces, on ne peut pas les dater. On sait que Reika en a publié en 1801 à Paris, un recueil de 12 fugues, et deux ans plus tard, il en a publié 36. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il les a composées, en sachant que Reika, souvent, il publiait une pièce et puis il la republiait après. Donc, ça rend la chronologie des choses très, très difficile à cerner.
Ce que vous dites des fugues, Ivan Illich, est aussi valable pour le reste de l'œuvre pour piano d'Anton Reika. À quoi ressemble ce corpus ?
Alors, c'est surtout la quantité qui impressionne aujourd'hui, puisque de plus en plus, les œuvres sont publiées, republiées pour certaines, mais surtout publiées pour la première fois. Il y a quantité de sonates, des sonates longues en plus, des sonates qui durent une demi-heure, comme on imagine bien les plus grandes sonates de Beethoven. Il y a aussi deux séries de variations très très longues, avec 57 variations pour deux séries. Donc ce sont des variations qui durent plus d'une heure. Il y a aussi beaucoup d'études, ce que lui il appelait des études. Alors c'est intéressant puisqu'il utilise souvent le titre étude pour désigner ce que nous on considère plutôt comme des préludes et fugues. C'est-à-dire qu'il y a une pièce, une ouverture, comme on a entendu dans l'épisode numéro 1 de cette série, et puis suivie d'une fugue dans le style de contrepoint, comme on connaît, de Bach, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Reika est peut-être le premier compositeur à utiliser le titre « étude » pour ses morceaux de musique, puisqu'évidemment, on a les études de Chopin qui vont être écrites 30 ans plus tard et qui vont devenir des pièces très, très importantes au XIXe siècle. Et puis, par la suite, il y a quantité de compositeurs qui vont utiliser l'étude comme titre pour un morceau expressif, qui inclut aussi un défi technique, bien évidemment, mais pas que. Et Reika le fait 30 ans plus tôt. Donc, c'est intéressant. Pour lui, c'est intéressant parce qu'il est toujours obsédé par le côté théorique des choses. Et il n'a pas peur de ces titres qui peuvent sembler froids. Fugue, étude, on dirait des exercices en fait. Et lui, ça ne lui fait pas peur, ça ne l'empêche pas d'être expressif, de chercher dans la poésie de la musique, au contraire. Alors c'est assez paradoxal, c'est quelqu'un qui est très poétique, qui est très libre et en même temps qui cherche en permanence des contraintes de composition parce que, comme il le dit lui-même, c'est dans ces conditions-là qu'il devient le plus créatif.
Est-ce que l'on sait pour qui il composait ses pièces, pour ses élèves ?
Alors ça, c'est une excellente question. Souvent, il composait les pièces pour donner des modèles à ses élèves de composition. C'est-à-dire que Reika était surtout un flûtiste. Bon, il a étudié le piano, il a enseigné le piano aussi à Hambourg quand il a entamé sa carrière de pédagogue dans les années 1790. Mais il ne les jouait pas lui-même. Il n'a jamais donné de concert de ses pièces. Quand il a quitté Bonn en 1794, il a complètement renoncé sa carrière de musicien. Il jouait à l'orchestre. Mais après, il a complètement arrêté. Il donnait des cours en privé, en particulier, pour garder son indépendance, chose très importante pour lui. Et donc, il composait ses pièces et parfois, il les insérait dans des traités sur la composition, sur la mélodie, sur le rythme, pour montrer justement un sujet. Par exemple, il allait traiter la périodicité dans une mélodie et puis il va composer une pièce pour montrer ça. Et je pense que cette contrainte-là, de devoir créer une pièce qui démontre exactement ce qu'il veut expliquer, c'est-à-dire que lui, il a un sujet qu'il veut élucider. Et avant que la pièce existe, il imagine qu'elle peut exister. et puis il la compose. Et je trouve que c'est extraordinaire, parce que souvent, ce que les gens font quand ils composent, quand ils écrivent des traités sur la composition musicale, que ce soit sur l'orchestration, par exemple, ils vont utiliser des exemples qui sont déjà tout faits. Là, c'est le contraire. Reika va inventer une idée qu'il veut démontrer à ses élèves, et puis il va composer une pièce qui démontre parfaitement cette idée-là, tout en étant une pièce libre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les exemples dans des traités de composition peuvent avoir un côté un peu sec ou un peu académique, alors que chez lui, c'est tout le contraire. Ce sont des vraies pièces expressives et qui, du coup, peuvent être interprétées dans le contexte d'un concert. Alors, par contre, il n'y a pas de tradition, puisque Reika n'a pas joué ses pièces. Personne d'autre les a jouées. Il les a publiées très peu. Lui, il s'est concentré sur son travail, sur gagner sa vie, et puis le reste, il laissait à la postérité de faire le tri. Alors, c'est beau, c'est un esprit idéaliste, si je puis dire. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a très peu de tradition d'interprétation de cette musique. Et ça, c'est vraiment un grand problème. On ne sait pas ce que ça donne. Il n'y a pas, comme par exemple les œuvres de Beethoven, des décennies, voire des centaines d'années de tradition d'interprétation. Qu'est-ce que ce point d'orgue pourrait dire? Alors, comment est-ce qu'il faut passer d'un mouvement à l'autre? Vous imaginez, avec les sonates de Beethoven, on a Liszt qui les a enseignés, on a tous les grands pianistes du début du XXe siècle qui les a enregistrés, et puis on les a réenregistrés dans les années 50. Donc on a plusieurs couches de sens et d'interprétation. Avec Reika, on n'a rien. C'est vraiment le terrain vierge. C'est incroyable.
Est-ce que la lecture de ces traités théoriques donne des pistes pour interpréter sa musique?
Alors, c'est difficile à dire, puisque Reika, moi personnellement, je n'arrive pas à décider si c'était une bonne idée pour lui d'avoir écrit tous ces traités, parce que lui, il avait l'esprit de pédagogue et il pensait absolument qu'il fallait expliquer tout. Et je pense que finalement, la musique, elle séduit plus quand il y a un côté mystérieux, quand on ne sait pas pourquoi ça a été composé comme ça, qu'est-ce que ça veut dire. Ça titille un peu plus le public, les musiciens, etc. Alors, en plus, il utilise un langage qui est extrêmement daté de nos jours. Bon, il avait par contre l'avantage de parler un français impeccable. Il a écrit ses traités en français, en allemand, jamais en tchèque à ma connaissance, à sa langue maternelle. Il était complètement intégré d'abord à la société viennoise et puis après parisienne. Mais je pense qu'au contraire, il faut extraire ces pièces de ses traités et les prendre comme de la musique qu'on peut programmer de différentes façons, puisque lui, finalement, il n'a pas prévu ces pièces pour cet usage-là. Et du coup, ce n'est pas lui qui va nous expliquer comment mieux s'en servir. Il faut se les approprier et les utiliser, alors les insérer. Comment est-ce qu'on peut utiliser des exemples musicaux qui sont finalement des morceaux? Comment est-ce qu'on les programme? Ce n'est pas comme les 24 préludes de Chopin où on sait que l'ordre a été défini, que les enchaînements sont extrêmement travaillés et que finalement, c'est un cycle. Là, on a la liberté justement de choisir. Est-ce qu'on en extrait quelques-uns? Il y a certaines pièces qui sont d'un intérêt pas uniquement académique, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Reika a surmonté la contrainte qui s'est posée. Il y a une pièce que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est composée sur 3 notes. Alors, il s'est donné la contrainte ultime, fantaisie sur un seul accord. Ça, c'est vraiment extraordinaire qu'il a réussi à se faire. Alors, est-ce que cette pièce, elle tient la route toute seule dans un programme de concert? J'en sais rien, je ne l'ai pas encore joué en concert. Mais par contre, quand on sait ce qu'il, lui, en tant que compositeur, il s'est infligé comme contrainte, il s'en est sorti remarquablement. Et c'est... Donc, effectivement, il y a le contexte qui colore notre point de vue sur cette musique. Et à la fois, pour certaines pièces, est-ce qu'on les détache? Est-ce qu'on raconte l'histoire? Peut-être que ce n'est pas important. Si ça se trouve, la fantaisie sur un seul accord, on ne dit rien au public que c'est sur 3 notes. Ils ne vont même pas le remarquer. Ce serait assez drôle, d'ailleurs.
Bah, faisons l'expérience. Est-ce que vous voulez nous jouer le thème? On va voir quelle réaction sera la nôtre en vous écoutant.
Donc, Reika va bien nous montrer, il va insister sur l'accord, les 3 notes qu'il a choisies, d'où il va tirer toute la musique, c'est-à-dire les 5 minutes de cette pièce vont être tirées de mi, sol dièse et si. Et puis il y a la mélodie qui commence. C'est assez drôle parce qu'il profite du fait qu'on peut changer de registre dans le piano pour créer un contraste qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement les trois notes, on a les trois notes partout au piano. Et c'est ça qui donne le relief. Et c'est assez drôle parce que cette pièce, elle est tellement dynamique qu'après, elle change de registre, il change complètement de tempo. Donc il y a un côté fanfare dans la musique qui est absolument passionnante, mais il y a aussi le côté rythmique qui propulse l'œuvre vers la fin. Et tout ça a été composé dans le cadre d'un traité de composition. Ça s'appelle en fait, pas une pièce, si c'est une fantaisie sur un seul accord, mais c'est un exemple dans le contexte d'un manuel sur la composition. Alors vous imaginez les élèves de Reka qui étaient complètement intimidés, puisque même dans le XXe siècle, il n'y a que Ligeti qui a fait ça dans les années 80, dans une pièce où il a composé avec une note, et après avec deux notes, et après trois notes. Mais Reka l'a fait 200 années plus tôt, en fait, comme défi de composition. Donc je trouve que c'est assez drôle quoi, que cette pièce existe déjà. C'est assez étonnant aussi que les gens qui écrivent l'histoire de la musique ignorent cette pièce. Parce qu'il y a un côté évidemment révolutionnaire dans la démarche, dans la technique. Le fait de se donner une contrainte aussi difficile et de s'en sortir musicalement, que ça donne vraiment quelque chose d'intéressant, moi je trouve ça extraordinaire. Il faudrait que les gens soient au courant, que les mélomanes et puis les historiens aussi.
On a comme habitude de penser que Reka est un révolutionnaire, un novateur, un expérimentateur, et qui a été peut-être parfois plus audacieux dans ses traités que dans ses partitions. Et vous allez aujourd'hui nous prouver un peu le contraire, parce que ce recueil de fugues avec lequel nous avons ouvert cette émission montre que Reka est un compositeur particulièrement en avance sur son temps et qui a parfois dérouté des Beethoven. On a pu en avoir un aperçu dans l'émission d'hier. Est-ce que, d'une manière générale, toute l'œuvre de Reka est de cette trempe-là, en tout cas au piano ? Est-ce que c'est tout aussi novateur et moderne ?
Alors justement, ça fait partie de la difficulté de la réception avec l'œuvre de Reka, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'est très intéressant que quand Reka s'est installé à Vienne, c'était l'une des périodes les plus fécondes de sa vie. Il avait 31 ans, il retrouve Beethoven pour la première fois depuis des années, puisque Beethoven est parti de Bonn en 1792, chercher sa gloire à Vienne. Reka, comme on l'a évoqué l'autre jour, a été délaissé un peu à Bonn, après il s'est installé à Hambourg. Il était à Paris, il a essayé de monter un opéra, ça n'a pas trop marché. Et enfin, il arrive à Vienne en 1801 et il compose une quantité de pièces tout à fait remarquables. Même lui, il est très étonné. Et il s'est donné ses contraintes. C'est comme s'il s'est dit, je vais faire avancer l'histoire de la musique, moi, tout seul. C'était très étonnant, le nombre de pièces, encore une fois, période très, très prolifique. Et c'est là où il a fait le plus d'expérimentation. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il a essayé de consolider différentes formes. On en parlera plus tard dans ses années parisiennes, à partir de 1808, où il a composé notamment les quintettes à vent, qui sont devenues du coup le modèle pour ce genre. Et c'est comme s'il voulait, comme son idole, son grand idole Haydn, avoir la main sur une forme, qu'une forme lui appartienne pleinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la quintette à vent, Reka est le premier nom qui vient parce que c'est celui qui a vraiment perfectionné cette forme. C'est grâce à lui. Si aujourd'hui on compose et on joue encore des quintettes avant, c'est vraiment Reka, c'est son travail. S'il a fait que ça, il serait déjà considéré comme valant une place dans l'histoire de la musique. Par contre, il a fait toute cette musique avant qui n'a jamais été jouée, que ce soit des fugues, des variations, des choses très très étonnantes, expérimentales. Les exemples là de ces traités de composition, qui vont beaucoup plus loin dans les démarches. Et c'est dans ces années-là, justement, qu'il est dans ses écrits. Il parle des microtons, il parle d'utiliser la musique folklorique d'un pays. Il parle de choses, d'expérimentales, par exemple, de créer de nouveaux systèmes rythmiques, des choses qui n'ont pas été faites jusqu'au 1950. Mais par contre, personne ne l'a suivi. Et je pense que c'est aussi, puisque de son vivant, certains compositeurs qui n'avaient pas ce côté-là, notamment Cherubini, qui était donc professeur d'abord inspecteur au Conservatoire de Paris et plus tard directeur du Conservatoire, et qui a beaucoup aidé Reka dans ses années parisiennes, refusaient un peu sa façon de faire, parce qu'à la fois, il voulait consolider, définir les règles d'une forme, et à la fois, il voulait les faire avancer en explosant tout. Et je pense que ça a vexé pas mal de compositeurs, parce que eux, ça leur convenait bien qu'il y ait une forme préexistante, qu'on remplit de thèmes du côté conventionnel c'est consensuel, en fait. Ça permet aux gens d'exister. S'il faut tout réinventer tous les jours, bah, ça me fait penser à des jeunes compositeurs d'aujourd'hui que je connais, qui composent des pièces, qui se disent, ce qui nous met le plus de pression, c'est quand nos profs nous disent qu'il faut réinventer l'histoire de la musique à chaque fois qu'on compose une pièce. Que si la pièce ne change pas, s'il n'est pas novatrice, elle n'a pas le droit d'exister. Ça, c'est évidemment un côté, l'excès du modernisme, le regard historique, que si la pièce n'innove pas, elle n'a pas le droit d'exister, elle ne peut pas être une bonne pièce, ça ne suffit pas. Et je pense que Reika, vraiment, il posait le défi à ses contemporains, à ses compositeurs, parce que s'il n'était pas aussi inventif que lui, bah parfois, le contraste était difficile, c'était brutal quand même. Même si Reika, il ne montrait pas ses pièces, il ne les jouait pas au public, je peux vous dire que les compositeurs étaient très au courant de ce qu'ils faisaient. Ils publiaient dans les grandes maisons d'édition, entre autres grâce à Beethoven, à son amitié. Et Beethoven aussi était vexé à la publication des fugues, parce que Reika a mis une introduction, c'est vrai, assez pompeuse, en disant, en plus en français, alors qu'il était à Vienne, composé d'après une nouvelle méthode, et Beethoven l'a incendié auprès de son éditeur. Beethoven a écrit plus tard, je ne suis pas comme certains compositeurs français qui composent soi-disant grâce à une nouvelle méthode. On sait très bien à qui il faisait allusion quand il disait ça. Mais mine de rien, Beethoven s'est intéressé à la fugue de sa manière plus tard. Donc je pense que toutes ces idées ne sont pas tombées... Bon, je n'allais pas faire la blague dans les oreilles d'un sourd, parce qu'en plus, avec Beethoven, c'est pas très gentil. Mais il y a un réel patrimoine à découvrir, c'est sûr. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Et je suis là aujourd'hui, d'ailleurs, pour ça aussi, pour jouer ces pièces en studio, en direct, pour vous montrer les petits détails de ces fugues. Qu'est-ce qui font qu'elles sont tellement novatrices? Par exemple, le numéro 13, que j'aimerais vous jouer maintenant, qui fait penser à Shostakovich, puisque, comme Shostakovich, dans les années 50, quand il était inspiré par Bach, il a composé ses 24 préludes et fugues, bah le prélude, surtout la fugue en Do majeur, est joué avec que les 7 notes du clavier, les touches blanches. Et ça, c'est quelque chose que Reika, du coup, a fait 150 ans avant.
Est-ce que Shostakovich connaissait les études de Reika?
Pas ma connaissance. Ça m'étonnerait beaucoup, puisque... elle n'était pas encore publiée. La première édition des fugues a été publiée dans les années 60 ou 70 par Breitkopf. Et donc Shostakovich, c'était 20 ans avant. Ça m'aurait beaucoup étonné. Mais l'idée de composer une fugue avec que des touches blanches, il faut le faire déjà. C'est extraordinaire.
Vous voulez nous montrer le thème? Comment sonne-t-il?
C'est tellement bizarre parce qu'on s'attend que ce soit pour qu'on soit bien en sol majeur, mais sauf que il y a un côté modal. Alors c'est drôle parce que évidemment après coup les historiens de la musique prennent ça pour un petit peu de mélos tchèque, Europe centrale, tout ça. Et comme on l'a constaté dans la première émission sur cette série, c'est pas parce que les compositeurs sont tchèques qu'ils ont forcément un côté slave ou expressif. D'ailleurs, moi, je vois ça avec mon côté serbe. Nous, en Serbie, on considère que les tchèques sont au contraire de l'Europe centrale, très têtus, très sur les règles, l'administration, sont pas du tout flexibles, pas du tout souples. Alors que le regard allemand pour les tchèques, c'est au contraire qu'ils sont en retard, qu'ils sont pas fiables, etc. Alors, je trouve ça très drôle. Mais il y a effectivement un côté un peu folklorique sur cette mélodie. Et donc, il va continuer avec la suite de la pièce, et vous sentez que comme il n'utilise que des notes blanches, il y a un côté un peu bancal, un peu bizarre. Il y a un côté un peu mélancolique quand même dans tout ça.
Il y a une couleur un peu modale qu'on retrouvera peut-être plus tard chez un Debussy, oui. Même si on n'a pas l'aspect fugué chez Debussy.
Oui, c'est ça. En fait, c'est bien de mentionner Debussy parce qu'il y a une parallèle qu'on peut dessiner entre les deux compositeurs. Debussy avait le côté révolutionnaire, mais par contre, la texture de sa musique, la surface, était tellement agréable et tellement douce et tellement... qu'il fait passer en fait, son côté révolutionnaire, ses expérimentations, ses expériences, on n'y prête pas attention. Et là, c'est le contraire, c'est que la texture de la musique est tellement, on va dire, académique qu'on se dit que, comme c'est une fugue, forcément, Reka a suivi des règles très précises. Mais en fait, pas du tout. En fait, il brise les règles. Dans chaque mesure, il brise une règle harmonique. Cette fugue, c'est vraiment la meilleure exemple que je connaisse de quelqu'un qui compose une pièce entière pour démontrer quelque chose, que c'est possible de composer une fugue avec toutes les notes blanches. Évidemment, pour faire cela, pour y arriver, c'est plus une fugue, en fait. Et c'est ça qui a agacé Beethoven. C'est qu'il a dit, ces fugues ne sont plus des fugues. Sauf que ce qui est drôle, c'est que Beethoven aussi, il gassait des règles, mais il le faisait autrement. Beethoven, on sent une frustration qu'il commençait une fugue et puis il n'arrive plus à tenir les règles, en fait. À un moment donné, après la première page, ça c'est systématiquement chez Beethoven, dans ses sonates, par exemple, avec les fugues, il tient une page dans la vraie forme fugue et puis il part complètement sur autre chose. Il ne peut plus le tenir. Il explose la forme. Évidemment, comme c'est Beethoven, c'est, entre guillemets, le plus grand compositeur de l'histoire de la musique, tout est permis. Mais Reka, qui change ses règles et qui suit ses règles, mais qui les change de façon interne, je ne sais pas si on peut dire que c'est plus fort, mais c'est aussi convaincant.
On va écouter cette fugue en entier dans votre interprétation, Ivan Illich. La fugue opus 36, numéro 13 d'Antonín Reka. Dans votre interprétation, Ivan Illich, nous sommes en direct du studio 15. Et je rappelle que vous interprétez ces pièces pour nous, tout spécialement à l'intention de Musique en Mémoire. Alors on a vu, cette fugue est composée exclusivement sur des touches blanches. D'une manière générale, est-ce que Anton Reka compose ces thèmes ou est-ce que parfois il emprunte des thèmes à d'autres personnes et compose des fugues sur ces thèmes?
Alors ça fait partie justement de l'une des forces de Reka, c'est qu'il a vraiment une connaissance et une conscience historique très forte qui va au-delà de ses pairs et de ses contemporains. Et par exemple, dans les fugues, il y a des thèmes qui ont été empruntés de Bach, de Domenico Scarlatti également, de Haydn, son idole, encore une fois, et son maître, puisqu'il a travaillé 2 ans avec lui, il était son secrétaire. Il y a Frescobaldi, il n'a aucun souci à se faire, à emprunter des thèmes de partout et en faire ce qu'il veut. Parce que de toute façon, le thème pour lui, c'est qu'un point de départ. C'est pas quelqu'un qui était focalisé sur l'idée de composer ses propres thèmes pour que tout soit de lui, quoi. Il savait de toute façon que la manipulation de la construction, c'était sa force, c'était l'intérêt. Alors cela dit, comme il a écrit des traités de mélodie, il avait quand même des idées assez définies, assez structurées sur ce qui fait une bonne mélodie. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, était très intéressé par l'opéra. Il aurait voulu être un compositeur d'opéra et avoir du succès avec l'opéra. C'était un peu raté, c'était tout le contraire. C'est plutôt sa musique instrumentale qui avait le plus de succès. Et je pense qu'il en était conscient. Mais ça ne l'a pas empêché, de, justement dans les fugues, de chercher des mélodies qui pouvaient marcher, qui pouvaient lui donner des constructions, qui pouvaient lui permettre des choses qu'il n'aurait pas pu dans une autre forme. Lui, il faut savoir que dans les fugues, il avait certaines règles auxquelles il tenait absolument. Par exemple, le fait qu'il y a une voix et puis une autre voix qui se suivent. Donc ça, c'est l'une des choses les plus basiques dans l'écriture de contrepoint. Mais par contre, lui, c'était quand il pensait qu'est-ce que c'est une fugue, c'était la première règle. La deuxième règle, c'était que tout ce qui composait par la suite devenait, d'une manière ou une autre, être lié au thème de départ. Alors par contre, là-dessus, il était très très flexible parce qu'il pouvait imaginer que les choses étaient liées alors que d'autres compositeurs auraient trouvé ça assez poussé. Et d'autre part, il fallait que la texture reste un contrepoint, donc que ça soit polyphonique. Et ça, encore une fois, il y a certaines fugues, on verra une plus tard, la 32, où il y a des moments où c'est une texture qui ressemble plus à homophonie, on va dire, puisqu'il y a vraiment une voix qui domine et les autres qui accompagnent. Alors ça, c'est une texture plutôt symphonique, instrumentale, et du coup, c'est un peu compliqué. Alors comment est-ce que Reika, il aurait justifié ça? Mais je pense que finalement, c'est la musique qui prime, encore une chance. C'est l'inspiration, c'est le côté lyrique, c'est la poésie. Et c'est ce qui fait le charme, justement, de son écriture. C'est que malgré le fait qu'il avait tellement de règles, qu'il avait tellement d'idées, qu'il avait écrit une quantité de traités sur comment faire ci, comment faire ça, ça lui arrive de faire tout le contraire régulièrement. Et c'est la musique qui décide tout.
Le côté mélodique est important dans la fugue, hein, puisque chaque fugue se construit autour d'un thème. Mais il n'y a pas que ça chez Reika. Il s'amuse aussi à varier les rythmes et à certaines fugues qui sont écrites dans des mesures assez inhabituelles pour l'époque.
Oui, c'est très étonnant. Justement, je ne sais pas si on peut dire que c'est le premier compositeur à avoir utilisé des mesures complexes comme il l'a fait. Mais en tout cas, c'est l'un des plus convaincants. Et dans les fugues, il y a un exemple très connu, c'est la fugue numéro 20, où dans le préface des fugues, et c'est assez drôle parce qu'il va élucider justement certaines raisons pour lesquelles il a fait ci ou il a fait ça. Dans la fugue numéro 13, c'était composé d'après un nouveau système harmonique, comme il a dit. Ce n'est pas vraiment un nouveau système harmonique, c'est juste qu'il s'est permis de composer une fugue avec des touches blanches. Bon, c'est ça qui énervait Beethoven, sans doute. Mais dans la fugue numéro 20, il s'est dit, qu'est-ce que ça serait si on combine une mesure binaire avec une mesure à 3? C'est vraiment quelque chose de très étonnant pour l'époque. Même Brahms, quand il a fait 70 ans plus tard, c'était considéré comme très bizarre, c'était expérimental. Et c'était que dans le XXe siècle, notamment avec Stravinsky, qu'on a pris l'habitude de changer d'une mesure à l'autre, de changer de mesure. Donc, c'est quoi la mesure? C'est le feeling rythmique, si je puis dire. Alors, pour un thème, d'habitude, par exemple, le thème qu'il a utilisé pour la fugue numéro 20, ça aurait été dans la mesure 6-8, c'est-à-dire 2 fois 3. Alors, ça aurait été donné quelque chose comme ceci. Bon, ça, c'est quelque chose qui coule tout seul. Cette mesure 6-8 est souvent associée à une Barcarolle. C'est quelque chose qui est fluide, qui avance. Et lui, il a décidé d'en créer une mesure qui s'appelle 5-8, donc qui est utilisée beaucoup plus souvent, 5 croches à la mesure au XXe siècle. Et parfois, il y a un côté un peu bancal parce que c'est déséquilibré. C'est-à-dire que vous avez soit 3 plus 2, soit 2 plus 3. Donc, ça vous fait un temps de trop. Alors, si c'était en binaire, ce serait peut-être comme ça. Donc là, c'est déjà beaucoup plus carré que le côté ternaire qu'on a entendu tout à l'heure. C'est vrai, ça devient vraiment prévisible. Et Reika, ce qu'il en fait, c'est tout le contraire, justement. Non seulement il va combiner une mesure ternaire avec le binaire, mais après, au moment où le thème est censé revenir, dans une fugue, c'est tellement prévisible qu'on l'entend. Et on sait que la prochaine fois que le thème revient, ce sera. Et lui, sauf qu'il fait tout le contraire. Au lieu de faire... C'est très, très étonnant. C'est au triton, c'est très déstabilisant. Et en plus, il le fait dès le début de la fugue, quand on l'entend vraiment. C'est-à-dire que quand les voix sont nues, quand c'est exposé, Donc c'est vraiment comme si il voulait absolument heurter l'auditeur.
Donc deux choses, si je vous suis bien. La première, c'est le chaos rythmique, une mesure à 5-8, donc avec ce rythme bancal 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Est-ce qu'il le renverse aussi 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2,
alors pas 3, dans cette fugue, mais il y a des pièces dans lesquelles il va renverser d'une mesure à l'autre, où il va faire carrément toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire pas uniquement 2 plus 3, 3 plus 2. Il va faire 1 plus 4, 4 plus 1. Et c'est très, très étonnant. Mais là, déjà, vu que cette fugue a été composé, en tout cas publié en 1803, c'est très étonnant d'avoir un thème qui fait ça.
Là, on a une réponse carrément au triton.
Exactement.
Donc
à la c'est quinte la réponse augmentée. Au triton. Et ce qui est drôle, c'est que la réponse arrive. Et en fait, moi, en tout cas, surtout la première fois que j'ai entendu cette pièce, où je l'ai jouée plutôt, je ne savais pas où j'en étais. C'est-à-dire que la mesure perturbe tellement, parce que c'est une écriture qu'on n'associe pas du tout à une mesure de 5-8. 5-8, c'est plutôt on associe à Bartok. C'est minimum 100 ans après, voire plus. Et là, c'est une écriture qui ressemble à Haydn quand même. C'est-à-dire que le thème, il fait vraiment penser au grand classique, sauf qu'il y a un côté un peu bizarre. Et c'est ça que j'aime finalement chez Reka, c'est que c'est tellement étonnant, c'est tellement surprenant. Évidemment, Haydn, ce sont des chefs-d'œuvre, hein, c'est pas du tout pour dénigrer Haydn, mais dans ce contexte-là, imaginons à Vienne en 1802, quelqu'un déchiffrer cette partition. J'imagine Beethoven qui a découvert ses fugues, il a dû se déchirer les cheveux en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'était tout le contraire de ce qu'il faisait. Alors Beethoven débordait aussi, mais de différentes manières. Ce n'était pas du tout la même manière de faire.
Mettons-nous à la place de Beethoven et écoutons jouer cette fugue dans son intégralité. Thank you.
La 20e fugue de l'opus 36 d'Antonín Rajka, dans votre interprétation, Ivan Illich, une interprétation que l'on comprend mieux maintenant après cette explication sur la façon dont Rajka a construit ses thèmes. D'une manière générale, est-ce que tout le recueil est construit selon une certaine structure interne? Moi, je pense au prélude des fugues de Jean-Sébastien Bach qui explore toutes les tonalités les unes après les autres. Est-ce que Rajka, lui aussi, a pensé ses 36 fugues selon un schéma qui lui serait propre?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de schéma global, on va dire. Rajka était plutôt le genre à composer des pièces au fur et à mesure et les rassembler pour les publier après coup. Et c'est vrai que souvent, il republiait des pièces. Par exemple, les 12 fugues qui ont été publiées à Paris en 1801 étaient en fait, font partie des 36 fugues qui ont été publiées à Vienne 2 ans plus tard. Donc, ça, par exemple, il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a 12 plus 36 fugues, alors que ce sont les mêmes. Et puis, il y a certaines fugues qui ont été publiées dans les 36 qui n'ont été pas publiées en tant que fugue avant, mais en tant qu'exemple musical dans le contexte d'une traité de composition. Et puis après, il a réalisé qu'il pouvait l'utiliser, la réutiliser. Mais ça, c'était quelque chose qui était assez répandu à l'époque. Mais par contre, il n'y a pas de structure de cycle. On ne peut pas les jouer. Ce serait difficile de les jouer 36 fugues d'un trait. Ça serait plus de 2 heures de musique. Ce serait surtout un énorme défi physique et mental, si on joue tout ça par cœur, parce que déjà, les fugues, c'est remarquable. Alors, Rajka, en plus, comme il casse les règles, on ne sait jamais où on est, un petit peu. Mais par contre, ce qui fait son charme, justement, c'est qu'on peut choisir celle qui nous intéresse le plus. Et je dirais que sur les 36 fugues, il y en a au moins... Enfin, il y a la grande majorité qui sont intéressantes. Et puis, il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles. Il y a des gens qui vont avoir plus ou moins de moyens techniques. Il y a des fugues, par exemple, le numéro 5, qui est sur un thème de Bach, qui est extrêmement difficile et qui est longue en plus. Donc déjà, ça limite le nombre de personnes qui peuvent la jouer, à part la première page à la limite. Il y a d'autres fugues qui sont beaucoup plus accessibles. Donc je pense que pour l'histoire de la réputation de Rajka, il va falloir effectivement que certaines fugues soient jouées par des jeunes, d'autres par des concertistes uniquement. C'est vraiment destiné à des profils de musiciens différents. Mais finalement, le clavecin bien tempéré, oui, c'est pareil. Hein. Il y a des pièces qui sont jouées par des débutants et puis d'autres, des fugues très longues à triple sujet qui sont abordées presque uniquement par les gens qui font des recueils entiers parce qu'ils sont obligés de le faire parce qu'en plus, ce sont souvent des pièces austères qui ne passent pas forcément bien en concert.
Et d'une manière générale, est-ce que Rajka écrit bien pour le piano? Est-ce que ça tombe facilement sous les doigts?
C'est assez étonnant puisque on considère Rajka plutôt comme un flûtiste. Et il a étudié le violon également et le clavier avec son oncle, dont on a parlé dans un autre épisode, Joseph. Mais c'est assez réfléchi, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'il les a composés au piano, forcément. Mais par contre, ça tombe plus ou moins sous les doigts. Et puis, il ne va pas mettre des difficultés extrêmes, très, très maladroits. Je pense que c'est quelqu'un qui composait bien pour n'importe quel instrument, en fait. Il avait la discipline de travailler à la table pour n'importe quel instrument, que ce soit pour l'opéra, pour la symphonie. C'était quelqu'un d'assez polyvalent. Donc je dois dire que même si c'est pas Liszt qui a écrit ça, c'est sûr, ça ne tombe pas sous la main comme chez un pianiste. Mais par contre, je n'ai jamais l'impression d'être très très mal à l'aise ou d'être crispé au piano, puisque Rajka ne me donne pas le temps dont j'ai besoin pour sauter d'un accord à l'autre.
On l'a vu, la fugue joue un rôle très important dans sa façon de composer. Est-ce qu'il y a d'autres genres pour piano qui reviennent régulièrement dans ses manuscrits?
Il y a les sonates. Alors les sonates, je suis en train de les découvrir grâce à un éditeur à Lyon, Symétrie, qui est en train de les publier justement pour certaines, pour la première fois. Ça, c'est très étonnant. On en parlera, je pense, dans le prochain épisode parce que ce travail justement d'édition actuelle est très, très important. Ça nous permet d'avoir accès à ces partitions. Parce que sinon, les partitions sont dans des manuscrits, souvent illisibles, parfois avec des fautes. Il y a vraiment un grand travail à faire. Mais clairement, pour lui, la sonate était une forme importante. Alors, moi, j'ai hâte de les découvrir, ce sonate, parce qu'évidemment, son père, Beethoven, la sonate, c'était la forme pour piano. Donc, on va comparer. Et puis, évidemment, leur professeur en commun, Haydn, combien de sonates il a écrit. C'est extraordinaire le legs qu'il nous a laissé dans la forme de sonate. Et puis surtout, une fois que Rajka était à Paris, il a composé des quintettes avant qui sont dans la même forme, en fait. C'est le même thème, c'est juste que c'est pour une formation de quintettes avant. Mais sinon, le traitement de thème, la façon de moduler, la réexposition, tout ça, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de sonates, il y a beaucoup de variations aussi. Il était très intéressé par la forme de variation. On aurait dit Un improvisateur, c'est drôle parce que souvent, quand il y a quelqu'un qui est très à l'aise avec les variations, qui crée beaucoup de variations pour piano, ce sont des pianistes qui, justement, à l'époque, improvisaient sur des thèmes d'opéra, etc. Et puis, on a l'impression que ça coule sur leurs doigts, en fait. Mais chez Reika, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont, pour lui, on dirait presque qu'il compose en temps réel, qu'il improvise, mais avec sa plume. Puisque pour lui, le fait de se donner la contrainte, comment est-ce que je vais retourner ce thème dans différents sens, et c'est pour lui un défi de compositeur.
Et souvent, on le retrouve aussi à s'amuser avec les chiffres, puisque vous faites allusion à son recueil de variations. C'est 57 variations, opus 57. Oui. On avait les 36 fugues, opus 36.
Oui, oui, il était très sensible aux chiffres. Et puis, il ne faut pas oublier, comme on l'a évoqué l'autre jour, qu'il a fait des études de mathématiques et logique à l'Université de Bonn. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grande culture. Il n'avait pas peur des chiffres, comme beaucoup de musiciens.
Eh bien, il y a encore d'énormes, d'étonnantes facettes à découvrir sur ce personnage, Antonín Rajka. Grâce à vous, Ivan Illich, on en sait déjà un petit peu plus. Et on va refermer ce quatrième épisode en vous écoutant interpréter une dernière fugue d'Antonín Rajka, qui est la fugue numéro 32 de cet opus 36. Est-ce que vous voulez nous la présenter? Quelles règles s'impose-t-il ici dans cette fugue?
Moi, c'est l'une des fugues que je préfère. C'est peut-être même celle que je préfère. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et pour moi, la chose qui fait sa force ou sa beauté, sa poésie, c'est une surprise qui intervient au milieu de la fugue, où on pense que c'est le milieu, on ne sait pas où on en est. C'est-à-dire que le début de la fugue, il y a une écriture qui est, pour moi, ça me fait penser à un quatuor à cordes. Et c'est vrai qu'à cette époque, à Vienne, il composait beaucoup de quatuor à cordes. Il était encore une fois un peu en concurrence avec Beethoven, qui venait de publier son opus 18. Et donc, moi, j'imagine bien des pizzicato au début de cette fugue. Texture très transparente. En plus, ce sont des notes dans les registres où on a l'habitude d'entendre des cordes. Et puis, ça, c'est Reika tout craché. Il va moduler sans annoncer quoi que ce soit. C'est très étonnant puisque ça change complètement la couleur de la pièce et c'est pas du tout quelque chose qui est habituel dans la fugue de jouer un thème dans une voix, dans deux voix, dans trois voix, quatre voix et puis après tout d'un coup de changer d'harmonie. C'est très très étrange. Je trouve ça magnifique d'ailleurs. Et puis à la page suivante, donc il va terminer la cadence. Pour moi, c'est toute la magie de cette fugue, c'est que tout d'un coup, il y a un autre thème qui intervient. On imagine bien, encore une fois, au premier violon, enfin, peu importe, peut-être plutôt une flûte ou un hautbois. Une espèce de décoration qui intervient par-dessus la structure qui a déjà été créée, c'est-à-dire le thème, là, le pizzicato. Et c'est tellement bien écrit pour la main droite, c'est tellement léger, c'est tellement logique. Et à la fois, moi, ça me coupe le souffle quand je l'entends, parce que c'est un moment de poésie, d'inspiration pure. Très étonnant parce qu'on a encore ce thème. Et je trouve ça très intéressant parce que, en même temps, en tant que compositeur, je sais que parfois on commence une pièce, on a un bon début, mais on ne sait pas comment avancer les choses. Parce que ce n'est pas toujours logique de prendre le côté linéaire de l'évolution. C'est-à-dire qu'il avait ce côté un peu aride, on va dire, sec, et il aurait pu peut-être continuer dans cette lignée-là, mais au contraire, il va basculer vers complètement autre chose. Et pour moi, à chaque fois qu'il y a ce passage qui intervient, j'ai l'impression que, qu'il y a le nuage qui se dégage et qu'il y a un rayon de soleil qui arrive. Enfin, pour moi, c'est très, très poétique. Évidemment, je ne trouve pas les paroles. Heureusement que je suis musicien et pas poète, parce que je ne m'en sors pas là. Mais je pense que pour moi, c'est quelque chose de très, très émouvant.
Eh bien, c'est sur cette émotion qu'on va prendre congé de vous, Ivan Illich. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette aventure Raïka. Et donc, on vous écoute encore interpréter tout spécialement pour nous cette fugue numéro 32, opus 36 d'Antonin Raïka. À demain, Ivan.
À demain.
quel incroyable luxe que d'avoir entendu quelques fugues de ces 36 fugues de l'opus 36 d'Anton Rajka, grâce à vous Catherine Buzer.
Surtout grâce à Ivan Illich.
Oui, sous ses doigts bien sûr. Et Ivan Illich qui nous fera le plaisir de venir demain pour conclure cette série qu'on vous doit, Catherine. On remercie ensemble Frédéric Bernard pour sa réalisation, Renaud Millet-Lacombe pour sa prise de son, puis Isabelle Watson pour son assistance à la production. Musique en mémoire, proposition de Joël Critère. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.